Bon, voilà, de retour, mais on est en train de discuter, Claude Henry, Nathan et moi, si on doit aller plus loin dans les notes de cours maintenant, parce que, en fait, je réalise qu'on est rendu vraiment à la période du sacrifice. Et puis, dans l'horaire et l'agenda qu'on s'était préparé au départ, on terminait lundi soir avec cette période-là. Donc, je me demande si ce serait pas mieux de garder ça pour lundi soir, puis de voir ça d'un bloc plutôt que de l'entrecouper. Parce que il y a beaucoup de matériel dans ce qui va suivre qui peut être simplement consulté sans qu'on ait besoin de le regarder tout en détail, par exemple, comme tous les éléments qui entourent la crucifixion elle-même. Il y a un ordre très détaillé que vous avez donné dans les notes de cours, justement pour être certain qu'on ne perde rien. Alors là, je pense que on est au point de se demander qu'est-ce qu'on fait. Peut-être que si on avait une période de questions après ça, on pourrait clore puis garder la période, la dernière qui reste pour lundi soir. Est-ce que ça a du sens?
Pour moi, ça ne me pose pas de problème. On peut très bien essayer de compléter peut-être un point ou l'autre pour lequel vous aimeriez avoir un peu plus d'approfondissement. Et puis autrement, on arrête là s'il n'y a rien de spécial.
Oui, s'il y a
Ça
des
va?
questions, n'hésitez pas, ou s'il y a des points particuliers, c'est le moment de le faire, ça, il n'y a pas de souci. En fait, ce n'est pas que je veux arrêter la session, c'est que je veux plutôt pas rentrer dans la suite pour le garder pour un seul bloc pour lundi soir. C'est ça mon but. Ce n'est pas tellement d'arrêter, là. C'est plus de ouais, de pas entrecouper ça avec le temps qui reste à notre disposition. Il reste à peu près une demi-heure, là, normalement. Donc, ça a bien été, on a couvert le matériel, puis je suis arrivé au point où je voulais être arrivé, mais voilà. C'est de voir s'il y a des questions ou des sujets particuliers que vous voudriez discuter, ou alors on va terminer.
Une question qui est à cheval entre ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'on verra lundi de Benoît et Amélie. Pourquoi est-ce qu'on dit Jésus est le premier des ressuscités, premier parmi les, je ne sais plus comment c'est dit l'expression, parmi les ressuscités, alors que Lazare a été ressuscité avant, puis bon, on pourrait dire qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont été ressuscitées avant lui.
Parce que tous ceux qui ont été ressuscités avant sont, pardonnez-moi l'expression, remords. Ils ont remouru. Voilà, parce que ils ont expérimenté à nouveau la mort. C'était pas une résurrection pour la vie éternelle. Le Seigneur Jésus, dans ce sens-là, il est le premier ressuscité pour la vie éternelle. Mais il y a aussi le sens de premier dans le sens qu'il est le premier en tout. C'est la primauté qui domine dans ce sens-là, dans le sens du mot premier. C'est d'avoir la primauté, la première place. Vous savez qu'ailleurs, les textes disent il est le premier en tout. C'est dans Colossiens, si je ne fais pas erreur, qui a dit ça. Donc, il y a ce double aspect ou ce double sens.
C'est ce qu'on peut remarquer dans l'expression. En fait, le texte biblique dit le premier-né d'entre les morts. C'est ce que
Oui.
tu soulèves, hein? C'est en fait le premier-né pour la vie éternelle, en fait.
Exactement.
Et puis, une question. Dans la période péréenne, pourquoi est-ce que Jésus enseigne ce qu'il enseigne? Par exemple, pourquoi est-ce qu'il enseigne la parabole de la vigne en Matthieu 20? Est-ce que ce serait une préparation pour le ministère des disciples après le départ du Seigneur? C'est une question de Marc-Olivier.
La parabole de la vigne, si je ne fais pas erreur, elle met l'accent sur le rejet d'Israël du Messie, n'est-ce pas? Donc,
Relevé.
en réalité, le Seigneur est dans un sens en train d'annoncer prophétiquement ce qui vient, là, ce qui s'en vient pour lui, d'une façon particulière. Je dirais que c'est beaucoup plus ça le contexte qu'un élément de préparation pour ceux qui partent en mission, quoique il n'est pas impossible qu'ils aient à vivre eux-mêmes, puisque le Fils lui-même est rejeté, qu'ils puissent vivre ce rejet de la part de leur auditeur. Ça, c'est possible aussi.
Et puis il y a une dernière question qui est arrivée d'Edouard. On lit souvent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament quand on lit la Bible. Hein, c'est vrai qu'on oublie souvent cette période de 400 ans de silence. Tu as parlé un petit peu de cette période avec les Maccabées, mais qu'est-ce qu'il y avait avant en fait? Est-ce qu'on a courtement, est-ce que tu peux juste rappeler qu'est-ce qu'il y avait avant cette période des Maccabées, entre Malachie et puis Maccabée?
Ben, en fait, durant la période intertestamentaire, quand on arrive là, à la fin de l'Ancien Testament, disons pour les livres historiques, quand on est sous Néhémie, Esdras, Esther se trouve dans ce contexte-là, mais surtout dans les autres provinces de l'Empire des Mèdes et des Perses, nous sommes dans le contexte des Mèdes et des Perses. Donc, Daniel avait prophétisé qu'il y aurait Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains. Ce sont quatre empires mondiaux qui devaient se succéder. L'Ancien Testament nous montre le contexte de Babylone. On voit même la chute de cet empire-là dans Daniel 5, à la toute fin de Daniel 5, début Daniel 6. On voit donc les Mèdes et les Perses prendre le contrôle et s'installer. Et l'Ancien Testament, d'un point de vue historique et chronologique, se termine dans le contexte de l'empire des Mèdes et des Perses, qui sont toujours au pouvoir. Ce qui va se passer après Malachie, donc Malachie, c'est un prophète qui est même toujours dans le contexte des Mèdes et des Perses. Après ça, les Mèdes et les Perses vont tomber sous la puissance des Grecs d'Alexandre. Et ça, c'était prophétisé dans Daniel par l'image du bouc qui fonce depuis l'Occident, qui va tellement vite qu'il ne touche pas le sol, il vole littéralement, puis bang, il entre en pleine face du bélier là, avec les deux cornes. Ça, c'est les Mèdes et les Perses. Il y a toujours un double élément dans les visions des Mèdes et des Perses, puisque c'est un double royaume, quelque part, puis il va rentrer dedans, bang, et puis il va détruire le royaume des Mèdes et des Perses. On ne le voit pas dans notre Ancien Testament, ça se passe pendant la période intertestamentaire. Alexandre le Grand va donc, c'est dans le 4e siècle avant Jésus-Christ, il va conquérir le royaume des Mèdes et des Perses, va s'installer, et puis les Romains vont par la suite prendre le contrôle sur les deux derniers principaux généraux grecs, les Ptolémées, les Séleucides, dans le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et quand nous, on arrive dans le Nouveau Testament, les Romains sont au pouvoir. Donc, c'est ce qui se passe dans la période intertestamentaire. Louis II a fait un résumé très intéressant, très bien fait, de l'histoire intertestamentaire, et ce résumé apparaît dans certaines versions de Bible, même des versions comme, attendez un peu, c'est quelle version que j'ai vu ça? J'ai vu ça récemment. Je vais essayer de retrouver ça, puis vous le partager. Mais en fait, je pense que c'est une traduction catholique même qui avait utilisé ça, peut-être la synodale aussi, je me rappelle plus. Mais c'est un très beau résumé de la période intertestamentaire en quelques pages seulement, puis ça couvre assez bien. Donc voilà un peu ce qui se passe là, pendant cette période-là. Est-ce que ça a bien répondu?
Alors, je laisse Édouard réagir. Et puis, une question de Marc-Olivier, peut-être par rapport à Judas Maccabée. Sa question, Israël a-t-il connu une période d'indépendance entre la victoire de Juda et l'arrivée des Romains? Si oui, quelle a été la durée de cette période? Est-ce que le royaume a vraiment été indépendant de toute influence extérieure?
Oui, c'est une période de presque 100 ans. On se trouve vers 165 quand ils vont réussir à se débarrasser du pouvoir des Grecs. Et par la suite, ils vont avoir beaucoup de conflits encore, mais ils vont être relativement indépendants pendant la période hasmonéenne. Donc, c'est-à-dire que il y a cette dynastie qui va s'installer suite à la famille Maccabée en Israël. Mais le problème, c'est que c'est une dynastie qui va placer en même temps sur le trône des sacrificateurs. Donc, c'est comme il y a un double rôle qui va être assumé par la dynastie hasmonéenne, celle qui est issue de la famille des Maccabées. Et c'est ce qui va amener un groupe de séparatistes juifs à quitter Jérusalem et à s'installer à Qumran et fonder là, c'est la secte des Esséniens qui vont fonder une communauté séparée de la sacrificature de Jérusalem qu'ils considèrent maintenant comme étant impure et non valide puisque les sacrificateurs sont aussi rois en même temps. C'est une dynastie royale et sacerdotale. C'est pas possible ça. Tu peux être sacrificateur de la tribu de Lévi et tu peux être roi techniquement de la tribu de Juda, mais tu ne peux pas être les deux en même temps, c'est pas possible. C'est pourquoi Jésus est roi et sacrificateur, parce que lui, il tient sa royauté de Juda, mais sa sacrificature, il ne la tient pas de Lévi, mais de Melchisédek. C'est ce qui fait la différence avec le Seigneur. Mais la dynastie des Hasmonéens, ça, c'est une corruption du pouvoir autant politique que religieux en même temps ensemble. Puis il y en a qui se sont séparés de ça, un groupe de Juifs appelé les Esséniens à Qumran. Mais ce qui fait en sorte que, oui, il y avait une indépendance, mais en même temps une corruption du leadership là-bas. Et quand les Romains vont prendre le pouvoir, ils vont mettre leurs pions en place et c'est eux qui vont contrôler d'une manière particulière ceux qui vont être les leaders politiques et administratifs et religieux en Israël. Mais entre donc 165 ou 167 et 63, ça c'est l'entrée de Pompée à Jérusalem, à peu près 100 ans, quoi. Donc, je dirais que oui, il y a une indépendance d'Israël, de l'État d'Israël pendant ce temps-là. C'est pas parfait parce qu'ils ont quand même des conflits encore à travers cette période-là, mais oui, il y a une certaine indépendance, là. Il n'y a pas de doute.
Puis les pharisiens, je ne me rappelle plus, les pharisiens et les sadducéens, est-ce qu'il y en a un des deux groupes qui tire leur origine des Asmonéens, de cette famille asmonéenne?
Directement des Asmonéens, ça, je pourrais pas dire de mémoire comme ça. J'ai des notes là-dessus, par contre, que je pourrais consulter plus tard. Il faudrait juste me le rappeler, là, parce que c'est sûr que à l'heure qui est là, puis avec une nuit blanche, il y a beaucoup de choses que je vais oublier. Mais si on me rappelle par email, je peux probablement donner des informations plus précises. C'est clair que les pharisiens, les sadducéens, ce sont des groupes qui se sont formés probablement même avant qu'on arrive dans la période grecque, là. Beaucoup pensent que la véritable origine des pharisiens et du mouvement pharisaïque, ça vient d'Esdras, ou de l'époque d'Esdras, qui serait dans les premiers rabbins, avec les premiers rabbins qui ont formé les écoles rabbiniques d'Israël. Ça, c'est très possible, mais une chose qui est certaine, c'est qu'on tire l'origine de ces groupes religieux-là dans la période intertestamentaire et peut-être un petit peu avant. Mais est-ce qu'il y a un lien direct avec les Asmonéens? C'est possible, probablement, mais jusqu'à quel point, je ne pourrais pas répondre tout de suite. Il faut que je cherche.
Merci. Alors, je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Beaucoup te remercie. On arrive au terme de cette rencontre ce matin. Merci pour ta disponibilité au milieu de la nuit de nous avoir accompagnés. On voit que par la fenêtre de ta chambre, il fait toujours nuit noire chez toi.
Oui,
Et
effectivement, oui.
on vous donne encore rendez-vous à lundi. Merci encore, Gilles. Bonne nuit pour ce qui reste de ta nuit. Et puis, bon dimanche à chacun. Au
Merci
revoir.
beaucoup. Au revoir à tous.